Eta goen guia jarrekitzen dugu, aldihuntan jakasile baten ganat joitez, bai zentako sibeua haitatu ordin, zuk arraposti maiten alduzia.
Alors chaque année, on fait une étude dans une région qui est différente et on n'était jamais venu dans le Pays Basque et on avait très envie de venir. On savait qu'il y avait beaucoup de petites exploitations, que c'était des zones de montagne, une zone à AOP. Et donc ça nous a donné très envie de venir étudier ces systèmes qu'on ne connaissait pas du tout.
Et Tordine, ça ricache du ciel ?
Ah, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors par exemple, quelque chose moi que j'avais jamais vu par ailleurs, c'était le fait d'utiliser les fougères pour faire la litière des animaux et des parcelles de fougères fauchées. Mais pourtant, moi, ça fait 30 ans que je vais dans beaucoup de campagnes françaises. J'avais jamais vu ça. Les systèmes ovins très complexes avec l'utilisation des estives. Aussi, c'était extrêmement intéressant. La manière aussi dont les agriculteurs dans cette région ont su saisir tout un tas d'opportunités, enfin quand Roquefort est parti, par exemple, de la région d'études dans les années 70, d'être capable d'avoir remonté une AOP au Soirati, d'avoir été chercher un label pour les agneaux. Enfin, on sent qu'il y a une grande cohésion des agriculteurs de la Soule pour essayer de défendre leur production et la survie de l'agriculture sur leur territoire.
Bai, hor, uaiko analizia egin duzie, agian jakin duzie gutiko bea, beraz, lehen nula zen, kanbioa nula ikusi duzie, bo, Roqueforten juitia ipatu duzu, besteik.
Alors oui, on a travaillé non seulement sur la situation actuelle, mais on a travaillé aussi sur l'histoire de cette agriculture en faisant des enquêtes chez les agriculteurs à la retraite qui étaient ravis de raconter aux étudiants la vie qu'ils avaient menée, comment fonctionnait leur exploitation dans les années 50 et comment petit à petit ça s'était transformé. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que dans les années 50 jusque au milieu des années 1970, en fait les agriculteurs de la zone étaient liés aux usines de Roquefort, enfin aux laiteries de Roquefort, puisque ils produisaient du lait pour des laiteries qui fabriquaient de la tome blanche et qui l'envoyaient à Roquefort pour de la transformation. Et en fait, Roquefort, après avoir connu une expansion très rapide, et elle avait donc été chercher du lait en dehors des Causses, hein, et en dehors de l'Aveyron, en fait, Roquefort a connu des difficultés d'écoulement. Et elle a commencé à cesser, en fait, de s'approvisionner dans les zones les plus éloignées de Roquefort. Alors, dans les zones éloignées, il y avait la Corse, mais il y avait aussi les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, les agriculteurs d'ici, qui étaient liés à la possibilité de produire pour une AOC, une appellation d'origine contrôlée, en fait, ils se sont retrouvés d'un seul coup abandonnés par Roquefort. Et en fait, ils se sont réunis pour monter une appellation d'origine. Donc le départ de Roquefort, c'est dans la deuxième moitié des années 1970. Et dans les années 1980, il y a l'appellation Osso-Irati qui est née, avec beaucoup de travail pour réussir à la faire naître, parce que c'est compliqué de monter une AOP. Et ça a permis, du coup, d'obtenir un prix du lait un petit peu plus élevé pour les agriculteurs. Alors, ce qu'on voit dans toute cette période, hein, c'est que les agriculteurs, ils vont essayer de produire un petit peu plus de lait en utilisant beaucoup plus les ressources fourragères des espaces les plus propices, hein, les fonds de vallée, toutes les zones motomécanisables, et petit à petit en délaissant un petit peu les estives parce que c'est compliqué d'organiser le travail là-bas. Il y a les caillolards aussi où il faut partager le travail de la traite, de la fabrication du fromage. Et puis en fait, les nouvelles techniques qui vont arriver, l'insémination artificielle, l'ensilage, les nouvelles races, en fait, vont pousser un certain nombre d'agriculteurs à abandonner les estives pour plus se concentrer sur les espaces qui sont plus faciles à travailler dans les fonds de vallée où ils ont des rendements qui sont plus élevés. Mais le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup d'espaces plans dans la Soule. Il y a beaucoup de pentes et dépendre que des espaces plans, ça veut dire aussi acheter des engrais, mais aussi acheter des fourrages à l'extérieur. Et donc, on se rend compte que le prix des fourrages, le prix des équipements, le prix des engrais, en fait, il augmente plus vite que n'augmente le prix des produits agricoles et que ça devient difficile pour les agriculteurs et qu'il y en a un certain nombre qui disparaissent. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit des agriculteurs qui essayent de revenir aux pratiques ancestrales, c'est-à-dire de remettre les estives au cœur en fait des systèmes de production en ayant des agnelages qui sont pas tout à fait au même moment et qui leur permettent en fait de baser leur production laitière beaucoup plus sur l'herbe à mesure qu'elle pousse en fait, en commençant au printemps dans les fonds de vallée et puis en commençant à monter en altitude à mesure que la neige fond, que l'herbe commence à pousser dans les zones d'altitude et puis en finissant dans les zones d'estive et ils font de la traite dans les zones d'estive. Et bien sûr, ça coûte moins cher de produire du lait quand on fait pâturer que quand il faut faire des stocks, acheter des fourrages d'Espagne, etc. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui essayent de s'orienter vers ces systèmes qui sont plus économes. Et ça, c'est aussi, encouragé par le fait que l'appellation Osso Irati, depuis l'année dernière, a interdit l'utilisation d'un certain nombre de fourrages pour l'alimentation des brebis, pour la production du fromage, c'est-à-dire tous les fromages fermentés, l'ensilage de maïs, l'ensilage d'herbes qui se produisent plutôt dans les plaines, quoi. Et donc on voit des mutations qui commencent à apparaître avec de jeunes agriculteurs qui essayent de se tourner vers une production qui repose plus sur l'herbe et sur l'ensemble des ressources avec tous les étages d'altitude jusqu'aux estives, au-delà de la Roue, enfin au niveau de la frontière espagnole. Et puis aussi des éleveurs qui cherchent à produire du lait de qualité. Il y a par exemple une nouvelle coopérative d'éleveurs qui s'est montée avec 17 éleveurs, avec beaucoup de difficultés, mais qui commencent à y arriver, à Scoria, et qui cherchent à collecter un lait de qualité AOP avec l'espoir de pouvoir arriver à une rémunération à un niveau plus élevé en essayant de valoriser le lait de la meilleure manière possible.
Gewaisho, bon, olhak habo yabiltia, agian kasumaitia ardiak nuiz erditzen dien, ardiak edo behiek nuiz umatzen dien, agian ebai ahalbezain autonomo izatia, eta hots entran edo pestizide, enfin, posu eta hoik gutiago yabiltia hoi lizate gehu azkenin?
Alors, les agriculteurs qui essayent de produire en étant plus économes et en utilisant l'ensemble des ressources, hein, avec tous les étages agroécologiques jusqu'au sommet, en fait, ce sont des agriculteurs aussi qui utilisent beaucoup plus de prairies permanentes, qui utilisent moins d'engrais et qui ont des systèmes où ils essayent de diminuer les dépenses au maximum en essayant de se servir des ressources qui sont disponibles dans leur écosystème. Et forcément, ils utilisent aussi moins d'intrants, moins d'engrais, moins de pesticides. Et la manière dont ils arrivent, alors du coup, ils ont des rendements qui sont moins élevés, mais ils essayent d'ajouter de la valeur avec la transformation fromagère à la ferme et éventuellement aussi avec la vente directe de ces fromages. Et puis, il y en a certains, une fois qu'ils sont engagés dans ce type de démarche, eh bien, le pas suivant, il est très proche et c'est celui du passage à l'agriculture biologique. Et donc, je pense que quelque chose pour l'instant qui commence à se développer mais qui n'a pas un développement très important, c'est la production d'Osso Irati, appellation d'origine protégée, mais aussi en bio. Et ça commence petit à petit. Et c'est vrai que pour pouvoir produire en bio, on ne peut pas acheter des fourrages à l'extérieur parce que c'est extrêmement coûteux, hein, les fourrages en bio, pas facile à trouver. Je ne suis pas sûre que les Espagnols en produisent de grandes quantités. Et donc, forcément, ça oblige à avoir des systèmes qui collent mieux en fait à la pousse de l'herbe et qui se servent mieux de l'ensemble des ressources, sans être concentrés au maximum sur des toutes petites surfaces, celles qui sont les plus facilement cultivables avec le tracteur, et puis d'abandonner toutes les pentes et toutes les hautes montagnes, quoi. Donc, moi, j'espère qu'il y aura des agriculteurs qui vont réussir à tirer un revenu satisfaisant de ce mode d'exploitation qui est beaucoup plus proche, en fait, des ressources de la montagne, de la soule, quoi.
Urentzeko azken galto bat, bai, zue uduko lehen laboantxa moderno bat balin bazen erdi industriala zen bat, oaiko egunin zer da, ahalbezain autonomo dena, edo bujabe dena, olha jabilten dina, gaznatzen dina edo bai transformatzen edo bestelakatzen dina etxaltin behi bertan, eta xuxenka saltzen, hoi da zue uduko gehuan datekin laboantxa moderno bat.
Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que de revenir à l'utilisation des ressources naturelles, c'est un petit peu le retour en arrière, hein, vers les années 50, etc. Et en fait, pour la soule, on se trompe quand on dit ça, parce que dans les années 1950, en fait, les agriculteurs produisaient déjà pour Roquefort. Et en fait, ils produisaient plutôt un lait d'hiver. Donc, ça veut dire que déjà dans les années 1950, en fait, ils avaient des agnelages de fin d'automne. Et ils produisaient du lait beaucoup du mois de décembre jusqu'au mois de juillet. Donc, ils livraient aux laiteries. D'abord, ils engraissaient les agneaux. Ensuite, ils livraient aux laiteries pour fabriquer du fromage en laiterie à destination de Roquefort où ils faisaient l'affinage dans les caves. Et puis enfin, ils montaient à partir de la mi-mai sur les estives où là, ils fabriquaient du fromage d'ici avec leurs brebis dans les caillolas. Et puis, on a vu petit à petit les systèmes se recentrer sur les vallées. Et en fait, les systèmes qui commencent à émerger maintenant, ils ont une certaine modernité parce que finalement, ce n'était pas les systèmes qu'on connaissait dans les années 1950. C'est-à-dire que les éleveurs, quand ils se tournent vers des agnelages de fin d'hiver et de printemps, pour pouvoir utiliser la pousse de l'herbe du printemps dans les vallées qui est très rapide, et puis ensuite monter en altitude quand la pousse de l'herbe devient aussi rapide là-haut, ça peut très bien s'accompagner de salles de traite dans les caillolards pour faciliter le travail. Ça peut s'accompagner aussi d'un certain nombre d'aménagements pour fabriquer le fromage. Enfin, c'est pas du tout un retour en arrière, mais c'est une agriculture qui utilise beaucoup plus la biologie et qui demande beaucoup plus d'observation en fait sur comment pousse l'herbe, à quel moment elle est disponible et d'essayer de d'optimiser. Il y a des zootechniciens qui disent faciliter la rencontre de l'herbe avec l'animal, mais je trouve que cette expression elle est très intéressante pour ce qui se passe dans la soule, parce que l'herbe elle est disponible à différents étages, à différents moments, et ça nécessite beaucoup d'observation et des agriculteurs qui savent encore faire ça de très très près avec l'ensemble des étages agroécologiques. Et ceux qui se lancent là-dedans, mais c'est vraiment c'est d'une grande modernité quoi, c'est pas du tout le retour en arrière. Le retour en arrière, c'était pas des agnelages de printemps et essayer d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Alors c'est vrai que ce qui pose question d'une certaine façon, c'est dans ces systèmes qui sont économes en intrants, beaucoup plus autonomes, ce sont des systèmes qui s'inspirent de l'agroécologie, c'est-à-dire de vraiment essayer d'utiliser l'ensemble des ressources des écosystèmes, les complémentarités entre les animaux, les plantes, etc. Et en fait, ce qui peut mettre en péril ces systèmes qui reposent aussi sur l'utilisation des estives au cœur de leur système de production, c'est en fait l'introduction de l'ours. Et c'est vrai que l'ours, c'est vrai qu'il a été réintroduit au nom de la biodiversité. Mais quelque part, on se rend compte qu'il y a une contradiction entre vouloir introduire l'ours et puis le développement de ces systèmes autonomes, économes qui perpétuent l'utilisation des estives de la montagne et qui mettent la montagne beaucoup plus au cœur de leur système de production et qui permettent de dégager de la valeur ajoutée en faisant ça grâce à la transformation. Mais c'est sûr que si l'ours commence à se développer, il va falloir trouver une manière d'éviter les attaques d'ours sur ces troupeaux qui utilisent beaucoup plus la montagne.
Elkigia zer da? Beste teknika zumaiten atzamaitia behaz hartza eta otsuek ilan elkarbizitzeko, ala ez, hoik ez ustia hunat jiten?
Alors moi je suis pas du tout une spécialiste de l'ours et du loup. Je ne connais pas les techniques qui permettent en fait de se protéger. Je les ai un petit peu vues dans les Alpes du Sud avec un élevage ovin viande, donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un élevage ovin lait. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie question, c'est que d'un côté, enfin si on est très soucieux de la préservation de l'environnement, on a d'un côté des systèmes qui s'inscrivent dans l'agroécologie et dans l'utilisation des ressources, la préservation des parcours, empêcher leur salissement, etc. Et puis de l'autre, un animal, l'introduction d'un animal qui répond à des soucis légitimes de restaurer de la biodiversité, etc. Mais je pense que la vraie question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on fait cohabiter les deux? Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, j'ai pas la réponse parce que c'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est important de la poser comme ça, parce que ça serait vraiment dommage que l'introduction de l'ours et puis l'arrivée du loup exerce une pression telle qu'en fait ça empêche le redéveloppement de systèmes qui utilisent la montagne à nouveau pour faire des fromages et que ça oblige les éleveurs à se concentrer sur les terres de plaine où ils sont à l'abri des attaques. Ça serait vraiment dommage que ça soit ça qui les oblige à repartir à fond dans le mouvement qui est en route depuis les années 50 et qui est l'abandon progressif de toutes les ressources, on va dire, plus difficiles à atteindre, que sont celles des parcours d'altitude, celles des fougeraies, celles des communaux aussi de moyenne altitude, dont l'utilisation est un petit peu abandonnée. Je pense que ça serait vraiment dommage qu'au nom de la préservation de la biodiversité, on empêche ces systèmes-là de se redévelopper. Donc c'est vraiment une question qu'il faut poser. Moi, je ne suis pas pour ou contre. Ce que je dis, c'est qu'il faut bien poser les termes du débat et qu'il faut prendre en compte les intérêts des éleveurs et puis tout l'intérêt qu'a la société aussi au développement de ces systèmes qui relèvent de l'agroécologie et qui s'inscrivent dans les ressources des écosystèmes. Alors, un dernier mot, l'étude, ce qu'elle nous a permis de montrer, en fait, c'est que la lame de fond du développement agricole, ça a été de produire plus de lait par actif. Et produire plus de lait par actif depuis les années 50, ça veut dire et se recentrer sur les étages les plus propices, ça veut dire acheter des aliments qui proviennent d'autres régions, acheter des fourrages grossiers qui proviennent d'Espagne pour produire plus de lait par unité de surface sur les petites surfaces du bas des vallées qui sont les plus propices. Et en fait, le problème, c'est que ces systèmes qui recourent à l'achat de beaucoup d'intrants, de fourrages, d'aliments, d'équipements toujours plus performants. En fait, le prix de tous ces produits, les engrais, les produits phyto, en fait, il évolue de façon très défavorable par rapport au prix du lait. Ils augmentent, alors que le prix du lait, grosso modo, il augmente très peu. Enfin, il reste stable si on enlève l'effet de l'inflation. Et donc, du coup, pour pouvoir maintenir son revenu, il faut toujours produire plus si on reste dans cette logique. Et donc produire plus sur les espaces très restreints des fonds de vallée, des zones motomécanisables, ça veut dire toujours moins d'emplois, toujours moins d'exploitations agricoles, des exploitations de plus en plus grandes. Et ce qui nous a frappé quand on est arrivé, c'est de voir dans une zone de montagne une assez grande densité de population. Et je crois que le développement durable dans ces vallées, c'est aussi le maintien de l'emploi. Et quand on voit qu'il y a des systèmes qui émergent et qui s'efforcent de réutiliser les autres espaces de montagne et qui arrivent à créer de la valeur ajoutée là-dessus, et je pense que c'est ça qu'il faut aussi encourager. Et ça serait dommage que le développement du loup et l'introduction de l'ours viennent contrecarrer le développement de ces systèmes-là. Donc il faudrait réussir à trouver une solution qui permette de maintenir l'emploi dans les vallées avec ces systèmes autonomes et économes qui dépendent beaucoup moins de tous ces équipements, de tous ces intrants dont les prix évoluent de façon très défavorable par rapport au prix du lait. Donc il y a un enjeu important, c'est le maintien d'emploi dans la vallée de la Soule, et ça passe par des systèmes qui renouent avec leur environnement de haute montagne et d'espaces difficiles.